Voilà, ça me fait très plaisir d'être là. Bonjour à tous. Toujours beaucoup d'émotions pour moi à chaque fois que je reviens ici, à la maison. Surtout, c'était la première fois que j'ai eu une introduction de Florence, une prière de Ritza. Voilà, pour moi, c'est un couple qui représente beaucoup. J'aurais du mal à en parler sans être émotionnel. Elle vous en a parlé un petit peu, on a vécu des temps très spéciaux ensemble. Et pour moi, si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux. Je ne vais pas trop en parler, sinon je ne vais plus pouvoir parler, mais je veux les honorer ce matin, parce que, ouais, voilà, merci. Alors que je me préparais pour venir ici, j'avais différentes idées en tête, différentes choses au cœur. Et puis, ces temps, on essaie d'inclure notre petite fille de 4 ans dans nos prières, nos réflexions, et puis je lui ai demandé comme ça d'aller prier, juste au cas où Dieu lui disait ou confirmait quelque chose par rapport à ce que je devais vous dire ce matin. Or, ces temps, quand on lui demande ça, souvent, elle va, puis elle revient 2 secondes après, et puis elle nous dit, faut prier encore une fois. Ok, c'est biblique, c'est toujours bien de prier encore une fois, donc voilà. J'ai fait la même chose avec mon épouse, qui a reçu un verset. Je lui ai dit, ok, ça ne va pas tout à fait dans ce que j'avais en tête, mais je vais quand même amener ça devant le Seigneur, et puis je vais voir si, voilà, si c'est cette piste que je dois suivre. Et puis petit à petit, les choses se sont mises ensemble, et puis j'ai eu un thème pour ce matin. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais est-ce que je n'ai pas déjà parlé de ça à l'église du réveil ? Alors, j'ai été voir mes notes. Et en effet, je relisais mes notes. J'étais là, mais c'est pas possible, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, deux choses l'une, soit je suis un peu fainéant, mais en tout cas là, ce n'était pas voulu, donc je ne pense pas que c'était ça. Soit peut-être que Dieu veut redire la même chose. Hein. Moi, je me disais, ça ne fait pas si longtemps que je suis venu, mais en regardant la date de mon message, j'étais un petit peu choqué. Parce que ce message, c'était le 19 octobre 2014 que je l'avais donné. Donc, ça fait quand même un petit moment. C'était très intéressant pour moi de relire ce que je vous avais dit et ce qu'on vivait en tant que famille. Donc, ce matin, je vais faire une sorte de mise à jour de ce que j'ai dit. Je vais reprendre un peu les trois points principaux, finalement, mais sous un autre angle. Je vous avais parlé de la confiance en Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vais tirer mon chapeau parce que c'est presque impossible. Mais voilà, j'avais parlé de ça. Je vous avais parlé d'Abraham, qui a dû faire confiance à Dieu, et puis il est même dit de lui qu'à cause de cela, il fut déclaré juste. Hein, ce qui m'avait vraiment surpris, étonné quand j'avais lu ça. Je vous avais aussi ensuite parlé de notre cheminement personnel en tant que famille. On avait dû faire confiance à Dieu, on pensait déménager sur Genève déjà à ce moment-là. Et puis il y avait des défis qu'on ne pouvait pas surmonter sans lui. Et puis ensuite, je vous avais posé la question, ben alors vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous devez lui faire confiance? Et je vous avais défié là-dedans. Donc aujourd'hui, on va revoir un petit peu tout ça, mais avec d'autres personnages bibliques qui eux aussi ont dû faire confiance à Dieu. Je vais vous dire où est-ce que nous, on en est en tant que famille. On doit continuer à lui faire confiance, on a d'autres défis. Et puis je lui reposerai la question, où est-ce que vous en êtes depuis la dernière fois? Est-ce que vous êtes encore défié par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des situations dans votre vie dans lesquelles vous faites peut-être plus confiance à Dieu? Peut-être c'est difficile. Je crois que Dieu veut nous dire ça ce matin et veut nous dire finalement, faites-moi confiance. Alors, on va regarder la vie de David ce matin. David qui est un autre personnage bien connu, qui est souvent aimé de par sa vie, de par ce qu'il a vécu. Beaucoup de bonnes choses, mais aussi des choses difficiles. Mais on voit qu'il a su bien réagir par rapport à cela. Et le passage par lequel j'aimerais qu'on commence se trouve dans 1 Samuel 16, 6 à 8. C'est le passage que ma femme avait reçu. 1 Samuel 16, 6 à 8. Voilà, c'est le passage en fait où Dieu demande à Samuel d'aller oindre un nouveau roi. Il n'est plus trop satisfait avec Saül. Et puis il l'envoie dans une famille. Et puis Samuel vient, il demande à tous les fils de se présenter. Certainement que vous avez déjà entendu cette histoire, mais je vais juste lire le passage qui nous concerne. Donc voilà, les fils arrivent, hein, et puis à leur arrivée, Samuel donc remarque Eliab. Et puis il se dit, certainement, c'est celui-ci qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais à ce moment-là, il y a l'Éternel qui lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et puis la question que je me suis posée et qui a à voir avec la confiance, c'était, ben, alors, qu'est-ce que Dieu a vu dans le cœur de David? Vous l'aurez deviné, une des choses qu'il a vues, je pense, c'est sa confiance en l'Éternel. Et puis on peut voir ça plus tard, finalement dans toute la vie de David. Mais dans un passage en particulier qu'on connaît bien, et qui est même enseigné aux enfants, le passage de David contre Goliath, et on va lire ça aussi ensemble, dans 1 Samuel 17. Mais voilà, hein, donc David, lui, n'était pas au combat, ses frères, ou plusieurs de ses frères en tout cas, étaient au combat. Voilà, c'était la guerre, il y avait les Philistins d'un côté, l'armée d'Israël de l'autre, et puis il y avait ce grand Philistin, Goliath, qui était un géant très impressionnant. Et puis à l'époque, c'était assez courant d'avoir quelqu'un qui s'avance, un guerrier très aguerri, impressionnant, et qui disait, ben voilà, s'il y en a un qui vient me battre, eh ben, en gros, vous avez remporté la victoire. En tout cas, il y avait des défis comme ça qui étaient lancés d'homme à homme. Et puis il y a l'armée derrière qui regardait un peu ce qui se passait. Puis là, il y a ce Goliath qui était très impressionnant, qui haranguait l'armée d'Israël. Et puis l'armée tout entière d'Israël avait peur de lui. Ils ne savaient juste pas quoi faire. Ils étaient tous là, un peu en train d'attendre. Et chaque jour, Goliath sortait et puis faisait la même chose. Il insultait Israël, enfin voilà. Et puis David est envoyé par son père pour amener des provisions à ses frères qui sont au champ de bataille. Lui gardait les moutons, hein, encore une fois. Quand on le regardait, on ne se disait pas, ben voilà, c'est de lui dont on a besoin. Non, lui, il faut qu'il garde les moutons. Mais voilà, il vient et puis il regarde un peu ce qui se passe. Et puis tout à coup, il entend Goliath qui, comme chaque jour, vient et puis fait ce qu'il fait. Et on va lire ceci. Voilà, Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille, là je suis au verset 21. Face à face, David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vient demander de leur nouvelle à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qu'il tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » Pas mal, hein? Ça vous parle, ça. Voilà, David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, mais qu'est-ce qu'on lui donnera, celui qui abattra ce Philistin, déjà? Et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qu'il lui a infligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Déjà là, on voit quelque chose de différent dans le cœur de David. Hein. C'est le seul sur toute l'armée qui est là, mais c'est quoi cette histoire? Il y a un truc qui joue pas. On répète à David ce qui était promis comme récompense, celui qui tuera le géant. Et puis lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui. Il lui dit, mais que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. Hein? Ses frères lui disent, oh, tu as des mauvaises intentions. Est-ce que c'est ça que Dieu voyait? Je ne pense pas. Puis David lui répond, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourne le doigt à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, le roi, qui aussitôt le fit venir. David lui dit, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et là, David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, hein, donc il leur court après, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, un peu comme nous on fait avec les lapins, voilà. Et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puis ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin, comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Il y a quelque chose quand même d'assez grandiose dans son cœur. Hein. Et voilà, j'imagine que vous avez tous déjà lu l'histoire, mais pour ceux qui ne le savent pas, David va chercher quelques galets, quelques pierres dans le ruisseau. Il a une fronde à la main. Il s'avance en courant vers le Philistin, qui l'insulte en le voyant, parce qu'il se dit, mais attends, c'est pas possible. Il m'envoie un gamin.
il se prend une pierre sur le front, il s'écroule, David prend son épée, lui coupe la tête, et voilà, fin de l'histoire. Alors voilà, hein, c'était des batailles d'époque. Aujourd'hui, on voit ça dans les films, mais bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de David qui était différent ? Il y avait plein de belles choses, on le sait quand on lit son histoire, mais il y avait une confiance incroyable en l'Éternel. Le seul de toute cette armée d'Israël qui a eu assez confiance en l'Éternel pour se dire, mais ok, bah c'est un géant, et alors ? Moi, l'Éternel est avec moi, j'ai confiance en lui. Je sais que lui n'est pas d'accord avec cette situation. Donc, on y va, pas de doute. Je cours, parce que j'ai tellement pas de doute que je cours contre les géants. Comme il courait après les lions, les ours, c'est incroyable d'avoir une telle confiance. Elle n'était pas théorique, sa confiance, hein. Mais la confiance et la patience vont souvent de pair. Parce que plus tard, dans l'histoire de David, on voit qu'il a dû faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. On l'a vu là, enfin, j'ai pas lu jusque-là, mais il a été oint comme roi, au futur roi d'Israël. Et puis, il s'est passé environ 20 ans avant que finalement, il soit sur le trône et qu'il ait la royauté sur tout Israël. 20 ans. 20 ans où il a été pourchassé. Saül était très jaloux, il voulait le mettre à mort. Il a dû s'enfuir, il a une petite armée avec lui. Plusieurs fois, il a même eu l'occasion de tuer Saül, hein, de se venger d'une certaine manière. Il connaissait très bien ses droits, son autorité. Il savait que tant que ce n'était pas le moment, c'est Saül qui continue à régner. Donc il n'a pas voulu lui prendre sa vie. Il avait compris comment Dieu fonctionne. Et il n'a jamais essayé de prendre par la force ce qui lui était dû. Il a fait preuve de patience, malgré le fait qu'il avait confiance en l'Éternel. Est-ce qu'il a eu des doutes ? Est-ce qu'il y a eu des moments où il était là, mais pff, bah super, quoi, j'ai reçu l'onction, mais maintenant je vis dans une grotte avec l'armée d'Israël qui veut me tuer. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça ressemble à certaines de nos situations des fois ? Et on a reçu une promesse, Dieu nous dit, oui, je vais faire ça pour toi. Puis on se dit, yes ! Et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis ça empire. Et ça empire encore. 20 ans. Je ne vous souhaite pas que ça soit aussi long pour vous. Je ne le souhaite pas moi-même. Mais il peut y avoir des temps où il faut attendre. Où il faut patienter. Et où il faut continuer à avoir confiance en Dieu. Tout en patientant. J'aime beaucoup dans les psaumes, en fait, on peut voir ça dans la vie de David. On peut voir qu'il y a plein de fois qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était en colère, il était déprimé, il était en larmes, il criait à Dieu, il disait « mais c'est pas juste, c'est mes ennemis qui sont en train de vaincre en ce moment, alors que moi je suis de ton côté, c'est pas comme ça que ça devrait être. » Mais souvent, à la fin de ces psaumes, il dit « mais Seigneur, je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Hein » Il le dit avec ses mots. Mais souvent, c'est ça. Souvent, ça commence, il est là, il déverse ses émotions devant Dieu. Et à la fin, il est là, mais je te fais confiance, on pourrait dire. Dans beaucoup, beaucoup de psaumes, on peut voir ça. Au début de l'évangile de Luc, on trouve une autre histoire avec deux autres personnages qui réagissent de manière très différente à ce qui leur est annoncé. Peut-être que vous avez déjà entendu cet enseignement, mais je trouve que c'est très, très pertinent. Il s'agit de Zacharie et de Marie. Qui ont la visite, tous deux la visite d'un ange. Et ces histoires se suivent. Je vais les lire pour vous. Donc, il y avait à l'époque, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir de l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. Car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. » Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères et leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Là, on voit la réaction de Zacharie. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » En gros, il est en train de douter. Il dit à l'ange, mais je sais pas, il demande un signe, ou je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière cette question. Mais ça ne plaît pas trop à l'ange Gabriel, qui lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. » Il lui dit un peu, « Bah écoute, si ça ne te suffit pas, que l'ange Gabriel qui se tient aux côtés de Dieu vienne te parler, je ne sais pas ce qu'il te faut. Hein » Voilà, on pourrait dire ça. « Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Voilà, première réaction. Et puis, juste après, on a une autre annonce qui est faite à Marie. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel, de nouveau, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ensuite, on voit la réaction de Marie à cette annonce. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, etc. etc. » Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent dans la réaction de Zacharie et la réaction de Marie? Parce qu'elles sont assez similaires, mais il y a quand même quelque chose qui est différent. En tout cas, l'ange réagit de manière différente. L'un n'a pas cru à ce qui lui était annoncé, et puis l'autre, Marie, n'a pas compris comment c'était possible, mais elle n'a pas douté que ça pouvait se faire. En gros, on pourrait dire qu'elle a eu confiance. Et la confiance ne veut pas dire qu'on comprend. Bien souvent, avec Dieu, on ne comprend pas. Bien souvent, il va nous dire des choses qui seront impossibles. Après tout, il est Dieu. Et nous, devant cette impossibilité, on ne comprendra pas. Comment c'est possible? Comment tu vas faire ça? Avec moi, en plus? Ça vraiment, alors... Mais tant qu'on ne doute pas, ça va. Dieu dit... C'est bon, tu n'as pas besoin de comprendre. Fais-moi confiance. J'aime quand tu me fais confiance. Et Marie a fait confiance. Elle a dit, mais comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui explique. La dernière fois que je vous ai parlé de la confiance, ici, je lisais ça dans mes notes et j'ai été tout surpris parce que je vous avais déjà dit qu'on allait partir à Genève, qu'on allait déménager en fait. J'étais là, mais attends, mais... Est-ce que vraiment j'ai mis la date juste? Est-ce que je réfléchissais? Puis je me disais, mais oui, c'est ça. Parce qu'en fait, à l'époque, on était sûr qu'on allait déménager à Genève dans les 2 mois qui suivent. Fin 2014, c'était notre objectif. Et nous avons déménagé à Genève le 1er juillet 2016. Comme vous le voyez, on a pu mettre en pratique ce que je viens de vous dire. On a dû faire preuve de patience. Bien des fois, on n'a pas du tout compris ce qui nous arrivait. On savait que Dieu nous avait appelés. Ça fait bientôt 7 ans que Dieu nous a parlé de Mérin. Juste après notre mariage, on prie en famille, et puis Rebecca a reçu ce mot Mérin sans savoir que c'était une ville juste à côté de Genève. Et petit à petit, Dieu a révélé son plan, et puis on a compris qu'on était appelé à aller à Genève et à démarrer quelque chose avec Genève sans mission. Et puis voilà, on avait terminé notre saison à Burtigny, un centre de gym, et puis on était prêt à y aller, on n'avait plus rien d'autre à faire. On avait pris un temps sabbatique de 6 mois, on était revenu ensuite en Suisse, et puis on était là, on y va, par la foi. On visite des maisons, on visite des appartements, on reçoit des rêves parfois, avec ma femme dessine une maison qu'elle a reçue dans son rêve, on va la visiter, elle ressemble à ça, on se dit yes, yes, c'est bon, on y va par la foi, on avance, on prie, on a l'impression que Dieu nous dit allez-y. Bon, ben, il n'y a pas assez d'argent, donc voilà. Alors on essaye autre chose, puis on attend un peu, et puis on prie beaucoup, et puis toute la communauté avec nous prie, nos familles, nos amis nous suivent. Parfois on se demande si vraiment on a bien entendu ce que Dieu nous a dit. Nous aussi, parfois. J'aimerais vous dire qu'on n'a jamais douté. Bon, il y a quand même des fois où on a un peu douté. Mais, je ne sais pas si ce que je dis va être juste, mais j'ai l'impression qu'il y a un doute dans la confiance. On peut douter tout en restant dans la confiance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, mais c'est dur à mettre des mots dessus, on peut douter de Dieu. Et ça voilà, je ne vous le conseille pas. C'est ce que Zacharie a fait et il y a eu des conséquences. Je pense qu'on peut douter de nous-mêmes ou on peut douter de ce qu'on a entendu. Donc il y a eu des doutes. Il y a eu des fois, peut-être qu'on a cru que Dieu nous avait parlé et que ce n'était pas le cas. Mais on n'a jamais douté du fait que Dieu était Dieu, que si c'était sa volonté, il pourrait ouvrir la porte. Et que voilà, on ne comprenait pas ce qui se passait, on ne comprenait pas le timing de Dieu, mais que Dieu est Dieu et on lui fait confiance. C'est ça que j'essaie de dire. Donc oui, on a eu des doutes, mais ce n'était pas en Dieu qu'on a eu des doutes. C'était dans notre compréhension de qui il est, dans son écoute, dans l'interprétation des signes qu'il nous donnait. Alors voilà, après deux ans et demi d'attente et de haut et de bas, et de pas mal de bas, Dieu a ouvert la porte à Genève de manière fantastique et très claire. Pendant très longtemps, comme je le dis, on se disait, mais est-ce que vraiment on arrive encore à écouter ce qu'il nous dit finalement? Et on doutait beaucoup par rapport à ça. Et puis un jour, je ne sais pas si ma femme est là, oui, tu te souviens quel jour c'était qu'on a reçu la date ou... C'était mi-avril. Donc mi-avril 2016, une oratrice qui était de passage à Burtigny, nous avait déjà vu une année avant, elle nous avait conseillé de trouver déjà une église, même si on n'avait pas encore déménagé, donc on a fait ça. On allait déjà depuis une année à Mérin, dans une église à Mérin. Et puis une année plus tard, elle vient et elle nous dit en gros, mais vous faites quoi? Vous êtes toujours là? J'hallucine. Enfin, faut y aller, faut déménager quoi. Une américaine assez, voilà, crac-crac, très prophétique aussi. Et puis elle nous dit, allez, on prie et puis on demande à Dieu une date de déménagement. Et franchement, il y a des fois où, bah oui, on a la foi, on y va. Et là, moi j'étais là, pff, ok, bah, ouais. On a déjà prié 50 fois, bah oui, on va prier parce que je sais que c'est une bonne chose à faire. Donc, j'ai pas du tout eu la foi qu'on allait recevoir quelque chose de clair et précis. Mais Dieu a parlé, et il a parlé très clairement. On était trois, donc mon épouse Rebecca, cette oratrice et moi. Les trois, on a reçu la même date à un jour près. Moi, j'ai reçu le 30 juin, et puis les deux ont reçu le 1er juillet. Et là, ça, ok. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, c'était Dieu a parlé, et moi, j'étais là, ok, c'est bon, cette fois, c'est bon, il va ouvrir la porte. Donc, on a commencé à dire aux gens, voilà, on va déménager le 1er juillet. Réaction classique, ah, vous avez trouvé quelque chose? Non, non, non. Puis là, il y a un petit sourire un peu jaune. Ah, bon, il sent malade. Bon. Et puis, voilà, on l'a annoncé à l'église, là aussi. Ah, super, vous avez trouvé. Non, ah, bon. Mais ça a fait son chemin. Les gens ont entendu. Et puis, on a pu visiter deux appartements, en fait, qui étaient libres pour la même période, pour le 1er juillet. Deux personnes de l'église. Donc ça faisait sens aussi d'avoir été dans cette église depuis une année, qui ont voilà, vu des appartements qui se libéraient, qui nous ont téléphoné tout de suite. Et puis il y avait vraiment la faveur de Dieu. On avait besoin de la faveur de Dieu. On n'a pas de salaire tous les mois, qui est le même. On reçoit des dons, donc ça monte, ça descend. Et c'était des petits salaires pour Genève. Donc en arrivant avec ça chez une régie, voilà. C'était juste impossible de trouver un appartement de cette façon-là. En plus, il y a très peu d'appartements libres. Ils ont des dossiers. Donc, bon, ils nous rappellent même pas quand on essaye. Mais là, le bâtiment où on est appartient à une fondation catholique. Donc, ce n'est pas la gérance qui décidait. Là, je dis, il y a des petites choses qui montrent que Dieu est avec nous. Là. Et puis, voilà, on a demandé à Jeunesse en Mission Suisse-Romande d'être garant pour nous aussi, pour qu'il y ait un certain poids financier derrière nous. Même si nous, on savait que Dieu allait pourvoir, mais aller expliquer ça à une gérance, voilà. Donc voilà, et on a eu l'appart, on est super content. Donc il faut parfois patienter. C'est là où je voulais en venir. Et donc, et vous, où en êtes-vous dans votre confiance en Dieu? En tant qu'église, il y a des projets, il y a des rêves, des désirs, des promesses peut-être que Dieu vous a faites, qui ne sont peut-être pas encore là. Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on chemine avec ces promesses? Et puis personnellement, ou en tant que famille, quelles sont les promesses, les choses pour lesquelles vous faites confiance en Dieu? Ou peut-être que ce matin, vous devez vous repositionner et dire, « Ah, ouais, Seigneur, j'ai été un petit peu comme Zacharie, j'avoue. Merci de ne pas m'avoir aveuglé. Hein? Merci d'être patient avec moi. Mais ce matin, je veux de nouveau m'engager, je veux de nouveau te faire confiance, pleinement. » Pour ces situations impossibles. Peut-être surtout pour ces situations impossibles, parce qu'il n'y a que lui qui peut prendre soin de ça. Est-ce qu'il y a un petit temps de prière prévu ou est-ce que je rentre directement là-dedans? Toi, tu veux faire ça. J'aimerais qu'on puisse prier pour ça et puis peut-être déposer des choses devant Dieu, peut-être confesser. Alors, prenons quelques minutes. Certainement que Dieu vous a déjà parlé. S'il y a des situations dans vos vies qui demandent d'être confessées ou s'il y a des choses où vous devez grandir dans votre confiance en Dieu, laissons simplement le Saint-Esprit nous parler encore. Et puis, si vous le désirez, il n'y a bien sûr pas d'obligation, vous pouvez prier à haute voix ou dans votre cœur. Dites à Dieu, je veux te faire confiance pour cette situation, pour cette situation dans ma famille, pour ce travail dont j'ai besoin, pour quoi que ce soit. Remettez ça à Dieu et puis choisissez de lui faire confiance à nouveau ce matin. Seigneur, merci parce qu'on peut te faire confiance. On peut te faire confiance parce que tu es un bon papa qui prend soin de ses enfants. Il y a ce passage incroyable où tu dis, mais regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs, elles se soucient de rien. Et Dieu va prendre soin de vous encore plus, parce que vous comptez bien plus à ses yeux. Seigneur, qu'on puisse être comme ces enfants pour qui c'est tellement normal de faire confiance à leurs parents. Ce n'est même pas une question si on demandait à un petit enfant, est-ce que tu crois que ton papa va te nourrir demain? Ben, il nous regarderait avec des grands yeux. Genre, je ne me suis jamais posé la question, tellement c'est normal. Tu es ce genre de papa pour nous. Alors ce matin, on veut te dire qu'on te fait confiance et on veut déposer tout ce qui, dans nos vies, ne te fait pas encore confiance. Merci de nous parler et de nous ramener à toi dans ce domaine.